Bonjour tout le monde. J'espère que ça se passe bien pour vous malgré le contexte. On a beaucoup de choses à discuter ensemble ce matin. Vous avez vu, ça bouge, ça rouvre tranquillement. En tout cas, depuis hier, on a le début d'un plan de réouverture de l'économie du Québec. C'est le 4 mai en région, le 11 mai à Montréal. Un décalage nécessaire vu les foyers d'infection qui sont beaucoup plus présents et inquiétants dans la grande région de Montréal. C'est donc 500 000 Québécois, 500 000 de travailleurs qui vont reprendre le chemin du travail à partir de la semaine prochaine. C'est sûr que c'est une question de risque à gérer. Hein. On se le disait hier déjà. Et bon, il faut évaluer la situation. En même temps, c'est pas évident de le faire. Plus on avance, avouez hein, que plus on avance et plus on en apprend sur ce coronavirus. Même les institutions politiques et de santé publique nous montrent au quotidien qu'elles essayent de faire la lumière là-dessus, mais elles aussi sont parfois placées devant le fait accompli, puis devant l'évolution de ce virus qui est assez inquiétant. Évidemment, pourquoi on craint une deuxième vague? Parce qu'on se dit que si on rouvre un peu trop vite, si on déconfine sans respecter les mesures de base qu'on nous répète depuis plus de 6 semaines, ben cette deuxième vague pourrait nous frapper beaucoup plus tôt que tard. Alors, ce qu'on essaie de voir, c'est comment trouver l'équilibre là-dedans, puis comment trouver son propre équilibre aussi. Puis c'est ça que je voudrais qu'on discute ensemble en première heure d'émission, parce que je sais que c'est pas évident. Puis je vous lis. Et sur isabelle@985fm.ca, je vous lis, vous êtes très nombreux à m'écrire de longs messages où vous me parlez de comment vous vous sentez. Je lis également les réseaux sociaux, puis de plus en plus, on voit des gens qui expriment des sentiments de peur, d'angoisse, d'anxiété. Déjà hier, il y avait une dame qui m'appelait puis qui me disait que il y a des enfants qui ont peur de retourner à l'école depuis qu'on a dit que l'école primaire allait rouvrir. La peur chez des enfants, c'est pas un sentiment très encourageant non plus. La peur chez n'importe qui, c'est effrayant. Peur, angoisse, anxiété, c'est des mots qui sont difficiles à prononcer aussi parce que ça implique une prise de conscience qu'on va pas bien. Alors ce matin, je vais vous demander d'abord comment ça va. On a pris de vos nouvelles hein, au cours des dernières semaines. On vous le demande régulièrement. Surtout parce qu'on veut essayer de trouver des solutions, peut-être des trucs pour essayer en ces temps de pandémie de garder notre équilibre, d'être moins fragile que vous l'êtes peut-être, qu'on l'est peut-être tous en ce moment. C'est sûr qu'il y a une fragilité un peu chez tout le monde. La première couche, là, elle a été un peu fragilisée. Pour en discuter, on va tout de suite rejoindre la directrice du Centre d'études sur le stress humain. C'est une grande spécialiste du stress. Sonia Lupien est avec nous. Bonjour, docteur Lupien.
Bonjour Isabelle.
C'est vrai qu'il y a une fragilité là, depuis les dernières semaines. On sent que chez les gens, il y a une inquiétude, une angoisse même parfois, et on la sent, on la palpe bien. Là. Qu'est-ce qu'on peut faire et surtout, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? On sait que c'est normal, on nous a dit oui, c'est normal, mais au-delà de la normalité par les temps de pandémie, qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent comme ça?
Bien, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est anormal et normal à la fois, et comme je le dis souvent, vous savez, nous, les chercheurs scientifiques, ça fait des années qu'on voulait savoir combien de temps ça prend un stress pour devenir chronique, mais on pouvait pas répondre à cette question-là parce qu'on pouvait pas naturellement prendre un humain, l'exposer à un stress pendant des semaines et regarder qu'est-ce que ça donnait, on serait en prison. Et pour nous, en fait, cette pandémie de la COVID est ce qu'on appelle en science une expérience de la nature, c'est-à-dire qu'on va laisser la nature faire ce qu'elle a à faire. Et on va étudier ça. Donc, je vous dirais que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que tous les humains sont exposés au même stresseur au même moment et pour la même période de temps. Et donc, ce qu'on a vu au début, c'est une réponse de stress aigu, cette espèce de fébrilité. On était prêts au combat. Bon, on va y arriver tous ensemble et bon, tout ça. Et avec le temps, il y a cette fatigue cognitive, mentale qui s'installe. Et je vous expliquerai un peu pourquoi elle s'installe. Ben, je vous le dis tout de suite, c'est que, vous savez, le cerveau est un détecteur de menaces. On produit une réponse de stress parce que le cerveau détecte des menaces. Mais s'il détecte des menaces comme ça, jour après jour après jour, il est clair qu'il va commencer à se fatiguer et on va commencer à vivre cette espèce de fatigue, de surcharge mentale où tout ce qui nous apparaissait faisable il y a 5 semaines, là, ça commence à être plus difficile. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait normal, aussi bizarre que ça puisse paraître. Ce stress-là qui n'en finit plus de finir, ben, va tranquillement devenir un petit peu plus chronique. Et ce que je veux dire aux gens, c'est que les manifestations vont continuer de changer. Ça change parce que le corps essaye de s'adapter à chaque jour à ça. Et donc, hier, ça s'est peut-être traduit par une colère spontanée. Puis aujourd'hui, on a le goût de pleurer. Puis demain, on va être fatigué. Puis après ça, on va être en top shape. Et on va se promener comme ça à travers les semaines avec tout cet éventail, si on veut, de comportements.
Oui. Et d'ailleurs, on l'a vu, le docteur Horacio Arruda en parlait. Il disait, pour expliquer un peu pourquoi il était... Puis je reprends son mot, confortable, entre guillemets, avec cette réouverture de la vie économique au Québec, même si pendant des semaines, il nous a dit qu'il fallait faire attention. Il nous le dit d'ailleurs toujours. Parce qu'il disait qu'il y a aussi un impact, finalement, qui peut être plus. Ces fameux risques à gérer dont on parlait tout à l'heure, qui peuvent peut-être être aussi inquiétants, sinon plus, que le virus à long terme. Puis on va écouter ce qu'il nous disait d'ailleurs là-dessus.
Comment on balance tout ça, l'économie, l'argent? La santé mentale, et dans une société, il n'y a pas que les maladies infectieuses, ce sont des déterminants de la santé. Moi, je vais éviter des suicides chez des propriétaires de PME, des divorces parce que ça va mal, et de la violence faite aux enfants. Ça fait partie aussi des enjeux de santé qu'il faut être capable de mesurer.
Voilà. Et puis, c'est vrai qu'au début, on n'en parlait pas de ça, hein, de Dr. Lupien. Là, aujourd'hui, on se dit l'impact de ce stress chronique que vous nous avez décrit, il peut peut-être être plus important, finalement, qu'un virus, là.
Ben, souvent, je le dis quand je promène mon chien, je me le dis à moi-même, je vous le dis ce matin, si on fait rien, la deuxième vague, ça va être ça. Ça sera pas une deuxième vague de la COVID qui va avoir des effets délétères. C'est une deuxième vague de troubles de santé mentale. Tu sais, quand on a eu le crash boursier, il y a eu une augmentation des taux de suicide et tout ça. Et donc, comme il l'a très bien dit, Dr. Arruda, il y a plein de déterminants de la santé et la santé mentale, c'en est un. On peut pas nécessairement demander ad vitam aeternam à des gens. Je sais qu'il y a des gens qui sont très, très, très confortables de rester confinés 6 autres mois, mais ce n'est pas la totalité des gens. Parce que comme je l'ai souligné dans un des blogs, là, je sais plus trop que j'ai écrit, il y a beaucoup de différences individuelles dans la résistance au stress. Alors, il y a des gens qui sont très, très peu résistants au stress. Ça leur en prend pas beaucoup pour paniquer puis avoir mal au ventre. Et il y a des gens qui sont très, très, très résistants au stress. Ça leur en prend beaucoup. Alors, c'est clair que ceux qui sont très résistants au stress, la journée où ils vont annoncer un déconfinement, sont sur le bord de la porte en train de taper du pied puis prêts à aller faire du pâté roulette. Là. Il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Mais il y a quand même aussi des gens qui ont une plus faible résistance au stress, une moyenne résistance au stress, qui vont commencer par mettre leur tête dehors dans quelques semaines puis regarder de quoi ça a l'air puis s'assurer que les premiers qui sont partis au front ne sont pas tombés au combat. Et après ça, on va pouvoir réapprendre la sécurité, puis réapprendre à ne plus avoir peur. Et donc, il va y avoir beaucoup de différences individuelles. Et comme je l'écrivais, s'il y a un mot d'ordre à avoir dans les prochaines semaines de déconfinement, c'est le mot compassion. C'est-à-dire compassion envers soi-même, envers ses propres réponses de stress, ne pas se décevoir soi-même d'avoir été stressé. Je serais étonnée et même apeurée que vous me disiez que vous n'êtes pas stressé en cette période-là parce que la réponse de stress, elle est nécessaire à la survie. C'est ça qui va vous aider à bien mobiliser votre énergie puis faire ce qu'il y a à faire.
Je pense qu'on est tous stressés. Puis moi, je le sens à niveau... Moi, d'habitude, je suis assez tranquille. Là. Le stress, je le gère bien. J'ai toujours l'impression d'être en stress positif. Mais là, je vous avoue, je trouve ça difficile aussi. Il y a des moments dans la journée où on peut se sentir un peu découragé. Puis ça m'intéressait justement, j'ai fouillé un peu là-dessus là, pour, entre autres, notre entrevue. Puis il y a vraiment des symptômes qui peuvent être d'ailleurs vécus de façon un petit peu plus légère chez certaines personnes, un peu plus gravement chez d'autres. Puis vous parlez de compassion. Puis la notion de pas se décevoir, je trouve ça intéressant, Dr. Lupien, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ils vont voir ça comme un signe de faiblesse que de reconnaître qu'on est plus fragile. C'en est pas un, là.
Et comme je le dis, puis j'espère tellement que, puis quelque part, il y a quelque chose de positif de ça, parce que j'espère que les gens auront tellement appris sur leur propre stress en le vivant de façon chronique qu'ils vont peut-être être mieux outillés après pour négocier avec. Et comme je le disais, il faut pas être gêné d'être stressé. J'aurais peur si quelqu'un me disait « je suis pas assez stressé », parce que sachez que quelqu'un qui est pas assez stressé, ça veut dire qu'il est pas capable de détecter la menace. Donc, il y a des bonnes chances qu'il s'en aille dans une manifestation publique à moins de 2 mètres de quelqu'un qui attrape la COVID et avec tous les effets. Donc, il y a tous ces effets-là qu'il faut prendre en compte. Donc,
fait que méfiez-vous des pas stressés.
Ben, quasiment. Et ce que je dis toujours, Pensez-y deux minutes, là. Pensez-vous sincèrement que le cerveau humain, dont la job première est d'assurer la survie de l'espèce, qui a créé la réponse de stress, excusez-moi du terme que je vais utiliser, qui a créé la réponse de stress pour nous écœurer? Comme si le cerveau, un jour, s'était levé en disant « je vais les stresser ». Mais non, la réponse de stress existe pour nous aider à survivre. Donc, il est normal que dans une situation comme ça, où il y a des stresseurs à long terme, qu'on réagisse toujours avec une réponse de stress. C'est la preuve qu'on est en santé et la preuve qu'on va être capable de survivre et de s'adapter à la situation. Oui, on va avoir mal au ventre. Oui, on va mal dormir. Oui, on va avoir des colères spontanées, toutes les manifestations. Et c'est pour ça que j'invite les gens à la compassion envers eux. Même. Je trouve qu'on est tellement sévère envers soi-même et envers ceux qu'on aime. Il y en a que ça va prendre 2 semaines à retourner au travail. Il y en a que ça va prendre 1 journée. Puis ceux qui prennent 1 journée vont servir d'exemple à ceux qui vont prendre 2 semaines, comme je vous dis, qui vont les regarder par la fenêtre en disant « Ah, il est correct. OK, ben là, je pense que je peux y aller. »
C'est vrai.
Comme la deuxième, troisième ligne. Là, tu sais, là, la deuxième. Et donc, on partira pas comme ça. Puis c'est à cause de cette grande variabilité chez les humains des réponses de stress qu'on a survécu, parce que des fois, on a besoin de ceux qui ont une faible résistance au stress, des fois, on a besoin de ceux qui en ont plus, et avec tout ça, on arrive à bien s'en sortir, en tant que société.
Ouais. Bougez pas, docteur Sonia Lupien, vous restez avec nous. Docteur Lupien, directrice du Centre d'études sur le stress humain, on va aller à la pause. Notre discussion tombe bien ce matin, puis notre question pour vous, c'est que stress, anxiété, angoisse, en ces temps de pandémie, on a le droit de se sentir plus fragile, vous l'aurez compris. Finalement, c'est une réaction de survie, une réaction très humaine. On va vous donner des trucs pour passer au travers d'ici les prochaines minutes, mais je vais vous poser la question. Comment vous sentez-vous, vous mentez mentalement? Sentez-vous là qu'il y a comme l'équilibre que vous aviez, ce bel équilibre avec lequel on gère toutes nos activités en temps normal? En ce moment, est-ce que vous sentez qu'il est peut-être fragilisé? Avez-vous des réactions où vous vous dites « Coudon, c'est pas moi ça, je me sens pas comme ça d'habitude, je suis pas angoissée, je fais pas de crise de panique, je suis pas stressée, je suis pas le genre comme ça à m'inquiéter ». Il y a une campagne en plus ce matin qui commence, là, une campagne de communication du gouvernement du Québec, la campagne « Aller mieux », où ça dit, puis je trouve ça très bon comme phrase, « Pas besoin d'être infecté pour être affecté ». C'est une bonne phrase, ça. Ils ont bien fait de la garder dans le brainstorm. On va revenir avec vos commentaires. Nos numéros de téléphone, je vous les redonne, dans la grande région de Montréal pour nous joindre, le 514-790-790-9850, et de l'extérieur partout sur le réseau Cogeco à la grandeur du Québec. Vous faites le 1-866-790-9850. Stress, anxiété, angoisse en ces temps de pandémie incertain pour tout le monde. C'est normal d'être un peu plus stressé. La docteure Sonia Lupien, directrice du Centre d'études sur le stress humain, nous a expliqué que c'était finalement une réaction de survie. En même temps, il y a un impact important à ce stress chronique. Elle le disait aussi, la deuxième vague, on craint que ça soit une vague de ce virus. Mais elle disait, la deuxième vague, ça va être celle-là si on fait pas attention. Ça va être une vague de problèmes de santé mentale. Et ça, faut faire très attention à reconnaître les symptômes chez soi-même, ce qui est pas toujours évident à faire, et chez les autres aussi. Voilà pourquoi elle disait, faut avoir beaucoup de compassion, parce qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ces réactions face au stress. On a Michel, justement, qui est avec nous, qui nous appelle au 514-790-9850. Vous pouvez nous appeler et nous dire comment vous vous sentez. Bonjour, Michel.
Bonjour, Isabelle.
Comment allez-vous?
Ben moi, c'est l'angoisse qui monte tout le temps. Au début, bon, ça allait, le confinement pour tout le monde et tout ça. Je l'ai fait, j'observais les règles, même quand j'allais à l'épicerie, bon, je faisais ça vite, hein. S'il y avait quelqu'un dans une rangée, je changeais de rangée parce que j'avais peur que les gens ne respectent pas la distance et tout ça. Mais maintenant, quand je pense à sortir, j'ai une angoisse qui monte, là, et je reste chez moi. C'est ce qui se passe, et de plus en plus. Puis là, je me dis, on déconfine, on tente à déconfiner, là. On commence à vouloir envoyer les enfants à l'école. Moi, si j'avais des petits-enfants, je les garderais avec moi. Je les enverrais pas maintenant. Mais comme c'est pas le cas, moi, je me garde à la maison. J'ai peur de sortir. J'essaie d'y aller quand même parce qu'il faut, mais le moins possible.
Ouais.
C'est ce qui m'arrive, ouais.
Merci, Michel. Je vais demander à Sonia Lupien peut-être de dire un petit mot sur cette angoisse que vous sentez grandissante. Sonia Lupien?
Ben, deux mots là-dessus. Premièrement, ce qu'on sait des études scientifiques, c'est que la peur, ça prend une seule fois pour apprendre à avoir peur. Hein. C'est, vous n'avez pas besoin de vous exposer 10 000 fois à quelque chose pour que votre cerveau apprenne à avoir peur une seule fois. N'importe quelle victime de trauma pourra vous dire ça. Là, c'est pas nécessairement un trauma que la dame a vécu, mais n'empêche. Mais le plus dur, c'est de réapprendre à ne plus avoir peur. Parce que pour apprendre à ne plus avoir peur, il faut d'abord désapprendre la peur et ensuite réapprendre la sécurité. Et ça, ça prend du temps et ça prend ce qu'on appelle une exposition toute douce et graduelle aux éléments de peur. Donc, il est clair que si vous restez à la maison tout le temps en dépit du fait que vous pouvez sortir un peu, ben vous allez continuer un peu de nourrir cette peur parce que la meilleure façon de nourrir une peur, c'est de l'éviter. L'évitement est le fuel en bon québécois de l'anxiété. Donc, il va falloir à un moment donné décider d'aller chasser quelques mammouths. Et pour ça, ce sont encore une fois les gens qui ont une forte résistance au stress qui pourront aider la dame. Je vous suggère de regarder les gens autour de vous qui vont doucement se déconfiner. Regardez qu'est-ce qui se passe. S'il se passe des choses négatives, ben vous allez vous dire, j'avais raison de rester dans la troisième tranchée puis de sortir plus tard. Mais s'il y a des choses, s'il n'y a rien qui se passe et tout va bien, ça va peut-être vous aider à réapprendre la sécurité et que cet environnement extérieur que vous aviez associé auparavant à la sécurité peut redevenir un endroit sécurisant. La deuxième chose que je voudrais juste vous dire, le mot angoisse, c'est un mot important en ces temps de COVID. Pour une de mes collègues qui s'appelle Barbara Frederickson et qui travaille sur le bonheur, l'angoisse n'est rien d'autre qu'une manifestation d'un manque de connexion humaine. Donc, quand on a cette espèce d'angoisse, de nostalgie, tu sais, genre, on va à gauche, puis on va aller à droite, on va à droite, on va aller à gauche, on dit, voyons, on sait, je m'en vais, là. C'est souvent une preuve, selon elle, d'un manque de connexion humaine. Et donc, vous allez peut-être la sentir de plus en plus parce que même si vous vivez avec des gens dans votre maison, on a besoin de ces connexions humaines-là. On a besoin de cette tape sur l'épaule, ce hug, ce sourire, etc. Et donc, j'aurais tendance à suggérer à la dame, c'est tout à fait simple, n'hésitez pas à sourire aux gens que vous rencontrez dans la rue à 2 mètres. Et ça, même si vous allez vous dire qu'ils vont pas vous répondre, sachez que c'est un instinct de répondre avec un sourire à quelqu'un qui vous fait un sourire et vous me direz comment votre angoisse se porte. Ça semble complètement stupide, mais ça fonctionne admirablement bien. Ces connexions humaines, on en a absolument besoin. Elles n'ont pas besoin d'être proches, mais une interaction sociale peut faire beaucoup de bien.
Et c'est pour ça que les fameux 5 à 7 virtuels, les fameux, les fameuses rencontres sur, via Zoom ou Facebook, tout ce désir qu'on a comme humain, parce que c'est notre réflexe, vous venez de bien le décrire, Sonia Lupien, ce réflexe qu'on a de vouloir toucher l'autre, de s'en approcher, on trouve des façons de le faire autrement. Ça, c'est nécessaire qu'on continue ça.
Oui, parce que s'isoler de plus en plus à cause de cette peur serait, à mon avis, une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'il est tout à fait possible que ça nourrisse encore plus cette peur pour le cerveau et que ça finisse en phobie sociale où soudainement on se retrouve avec une peur de sortir qu'on n'a jamais eu avant.
Ouais.
Et donc, il va falloir contrôler la bête intérieure en soi et se donner le droit de peut-être aller chercher un peu plus d'interaction sociale, quelle qu'elle soit.
Je retiens le mot que vous avez dit, il va falloir désapprendre certaines choses aussi.
Ouais.
Et c'est drôle parce que justement, le docteur Arruda et le premier ministre François Legault ont même dit à un moment donné, il n'y a pas très longtemps, ces jours-ci, avec ce retour donc à l'économie, de nous déprogrammer. Ils nous ont dit ça. Oui. Hein, il va falloir se déprogrammer un peu. On vous a dit, ben là, restez chez vous pour sauver des vies. Puis là, finalement, ils nous disent autre chose. C'est vrai que les réactions des derniers jours, c'est que les gens sont vraiment mêlés. Les gens ne savent pas quoi penser, finalement, qui croire. Et c'est là où il y a une angoisse puis il y a un stress qui peut être augmenté. Donc, se déprogrammer, ça veut dire quoi? Comment on y arrive, docteur Lupien?
Mais c'est parce que c'est ça. La peur était nécessaire. Tu sais, instaurer une peur chez un animal, par exemple, ça prend une seule fois. Vous prenez un rat, vous l'amenez dans une pièce peinturée en bleu, vous lui donnez un choc dans une cage pour le restant de ses jours. À chaque fois, vous allez l'amener dans une... Ben, pas pour le restant de ses jours, mais pour de nombreuses autres fois. À chaque fois, vous allez l'amener dans la pièce bleue, boum! Il va avoir peur, même si vous lui donnez pas de choc, parce qu'il va se rappeler qu'il a reçu un choc-là. Et quelque part, aussi bizarre que ça puisse paraître, il fallait instaurer la peur pour... comprendre, pour aider les gens à comprendre qu'il fallait se confiner. Maintenant, il faut désapprendre la peur. Bien, avec le rat, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'amener dans des pièces bleues, puis là, il va avoir peur. Puis, à un moment donné, après plusieurs essais, il va commencer à rentrer dans la pièce bleue en se disant « Oh! Gadon, j'ai pas de choc, toi. » Et donc, il va commencer à réapprendre la sécurité de cet espace-là qui, avant, était associé à la peur. Et c'est comme ça que ça va se passer chez chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que je prends le mot compassion. Il faut pas obliger les jeunes à aller trop vite. faut pas obliger les gens à aller trop vite. L'autre chose que je tiens à dire par rapport à ce que la dame disait, il faut peut-être pour les parents empêcher que leur propre peur soit débordé sur leur enfant. C'est-à-dire que si c'est le parent qui a peur, mais que le tout petit va aller jouer avec ses amis, il va falloir éventuellement négocier ces différences individuelles dans la réactivité à la peur pour permettre à tous les membres de la famille de ne pas développer de l'anxiété à long terme parce qu'on continue puis on continue d'éviter. On peut attendre, comme je dis, de s'assurer que c'est sécuritaire. Absolument aucun problème, mais il faut toujours garder en arrière de la tête qu'il va éventuellement revenir à la normale parce que sinon, les coûts vont être trop élevés à long terme.
Ah ouais. On a Denise qui est avec nous. Bonjour, Denise. Denise est-elle là? Bonjour, Denise.
On vous écoute.
Oui, comment ça se passe pour vous en ce moment?
Ben, comme j'expliquais à la dame, moi, c'est sûr, mon anxiété a monté fulgurant. J'étais en fin de semaine à mon 40e jour de confinement parce que j'ai une condition médicale particulière. Et je me suis dit, je vais essayer justement de sortir de ce confort-là. Et ma première sortie a été plutôt que traumatisante. Je me suis sentie comme un chevreuil en plein milieu d'une autoroute qui se faisait fusiller par des chasseurs. Le comportement des gens aide pas forcément non plus parce que des fois, on veut respecter la distance sociale, mais l'autre ne veut pas forcément le respecter, il te regarde bizarrement. Mais j'entendais tout ce que la dame disait tantôt au niveau du déconfinement, de réapprendre. Puis effectivement, c'est la peur qui rentre beaucoup en arrière.
Oui, puis c'est sûr que c'est pas évident non plus, là, se déprogrammer. Là, déjà, on le dit, on l'exprime. Une experte nous dit voici qu'est-ce qu'on peut faire. En même temps, c'est pas évident de le faire au quotidien. Il faut vraiment, vraiment. Il faut se parler, je pense, Denise.
Mais c'est encore moins évident quand on a une condition médicale qui nous met un système immunitaire déficient.
Oui, ça rajoute énormément à votre à votre peur.
Effectivement, beaucoup.
Docteur Lupien, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci, Denise, à Denise pour essayer de la rassurer un peu.
Merci beaucoup, Denise, parce que vous me permettez d'intégrer une deuxième notion. Donc, deux éléments de réponse à votre point. Encore une fois, compassion. Ce n'est pas parce que la première fois que vous êtes sortie, Denise, et que ça a été particulièrement difficile qu'il faut cesser de réessayer. Donc, c'est normal. Continuez de vous dire toujours c'est normal que la première fois, ça a été particulièrement difficile. Le deuxième point qui m'amène, c'est la notion d'adaptation. La façon de s'en sortir, c'est d'accepter, le terme est important, accepter de s'adapter à la situation. Si on demeure rigide et qu'on veut continuer de faire les choses comme on les faisait avant et qu'on refuse de changer nos façons de faire parce que ça allait mieux comme avant, on va souffrir de stress, c'est sûr. Donc, ceux qui vont s'en sortir le mieux, c'est ceux qui vont choisir de s'adapter. C'est comme si je mettais un bloc devant vous, puis vous êtes habitué de passer sur le chemin où est le bloc, puis vous continuez de rentrer dans le bloc en disant, voyons, je passais là avant, ça passait. Oui, vous allez souffrir de stress. Mais si vous vous reculez, vous allez vous rendre compte que vous pouvez passer à gauche ou à droite, même si le chemin est plus long, et vous allez avoir moins mal au ventre. Je vous donne un exemple, Denise. Vous êtes sortie peut-être à 1 h l'après-midi, à un moment de grande affluence. Et pour quelqu'un comme vous qui avez une condition médicale, oui, ça doit être stressant. Alors, on va s'adapter. On va dire, OK, j'accepte la première fois d'avoir eu peur. Demain, là, on va sortir à 6h15 le matin. J'adore tout ce beau monde-là, surtout le samedi matin. Croyez-moi, je me promène à cette heure-là. Moi, il n'y a pas un chou. Vous allez avoir la sainte paix et vous allez pouvoir profiter de ça. C'est ça, s'adapter. C'est-à-dire que je fais des essais et erreurs, j'accepte d'avoir fait une erreur, c'est tout à fait normal. J'essaye, ça ne marche pas, je repars, etc. Et vous allez trouver, Denise, le moment pour vous que vous vous sentez le plus sécuritaire et vous allez voir, ça va vous faire le plus grand bien.
Ben merci pour ces conseils. Ça va être utile à Denise et à tous ceux là, qui se sentent un peu comme elle. Merci beaucoup, Dr Sonia Lupien, d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. On aura sans doute l'occasion de vous reparler au cours des prochaines semaines. Dr Sonia Lupien est directrice du Centre d'études sur le stress humain. On s'arrête ici, tout de suite après la pause. On va enchaîner avec le pharmacien Jean-Yves Dion. Il vient de publier un livre qui s'intitule « Bon stress, bad stress ». Il va pouvoir également nous dire comment il voit la chose. À tout de suite, tout le monde.